Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro de Mustapha Mamansani de la radio Gaskia Zender, une des radios partenaires du studio Kalangou dans la ville de Zender. Le forum, c'est un rappel, est diffusé via un réseau dynamique de 46 radios partenaires à travers le Niger. À Zender, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Choukoura sur le 105.5 MHz. Aujourd'hui, le thème de notre émission porte sur le rôle du cousinage à plaisanterie dans la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Niger. Le cousinage à plaisanterie est une valeur sociale ayant cours au Niger et qui valorise les relations intercommunautaires pacifiques et courtoises. Elle donne lieu à des joutes verbales et des plaisanteries entre parents, ethnies, clans ou groupes. Il est même aisé de constater un individu s'arroger un bien appartenant à un autre sur la base de ce cousinage à plaisanterie sans aucun problème. Le cousinage à plaisanterie est analysé par certains anthropologues comme un moyen de décrispation et de cohésion sociale. Alors, quelle est l'origine de la parenté à plaisanterie au Niger? Quelle contribution sur le développement et la cohésion sociale? Comment mieux valoriser cette valeur sociale? Pour débattre de cette thématique, nous recevons sur ce plateau Dr Madougou Barraou. Il est philosophe, enseignant-chercheur à l'Université des Zender, également doyen de la Faculté des sciences de l'éducation. Nous avons également sur le plateau M. Abdou Doki Mahazou, homme de culture, administrateur et proviseur également du lycée municipal de Zender. Nous avons également invité pour ce débat Dr Malem Issa Mahamane. Il est historien, mais au dernier moment, il a eu un empêchement. Ce n'est que partie remise. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, ce soir nous allons parler du rôle du cousinage à plaisanterie dans la cohésion sociale et la consolidation de la paix. La tradition du cousinage à plaisanterie du Niger est classée patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2014. Il nous a épargné les déchirures et autres conflits civils tragiques comme malheureusement connus d'autres pays africains. Docteur Madougou, nous commençons par vous. Quelle est l'origine du cousinage à plaisanterie, également appelé parenté à plaisanterie au Niger?
Je vais commencer d'abord par rappeler un certain nombre de dimensions de cette parenté à plaisanterie qui indique les différents cas de figure. Il y a d'abord la dimension familiale, n'est-ce pas, où vous savez traditionnellement chez nous, les enfants des frères et sœurs, n'est-ce pas, sont dits cousins entre eux. Donc là, ça c'est la dimension familiale. Et il y a une dimension intracommunautaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même groupe ethnique, vous avez, n'est-ce pas, certains sous-groupes, n'est-ce pas, qui se plaisantent avec d'autres. Et il y a la dimension intercommunautaire, c'est-à-dire entre deux groupes ethniques. Par exemple, entre les Kanuri et les Peuls, ou entre, n'est-ce pas, les Gobirawa qui sont Hausa et les Zarma. Il y a également, nos recherches ont permis de découvrir qu'il y a autres dimensions, telles que la dimension professionnelle, n'est-ce pas, où vous allez voir des gens sur la base de leur profession, plaisante entre eux. Je prends l'exemple d'un boucher et d'un éleveur. Donc, dans certains cas, vous allez voir de leur plaisanterie, les éleveurs accusent les bouchers de tuer au moment où eux, ils entretiennent. Donc, vous voyez bien, ça crée une plaisanterie entre eux. Il y a une autre dimension, une dimension cette fois-ci interconfessionnel. Les groupes confessionnels, par exemple, vous allez voir une parenté à plaisanterie ou une plaisanterie entre les marabouts et les animistes. Et donc, cela montre clairement qu'au-delà de l'aspect familial, il y a plusieurs dimensions. Maintenant, et là, on voit bien qu'il y a une origine, n'est-ce pas, familiale au départ. Par rapport à la relation intercommunautaire, par exemple, là, souvent, cette dimension nous révèle qu'il y a eu plusieurs facteurs, qu'il y a eu plusieurs raisons qui expliquent le point de départ de ce cousinage-là. Notamment sur le territoire nigérien, vous allez constater que bon nombre, n'est-ce pas, de communautés sont parentes entre elles. Et au regard de ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est d'abord cet aspect familial-là qui revient. Parce que certaines communautés, n'est-ce pas, c'est les liens du mariage. Par exemple, quand vous prenez les Kanuri et les Maoris de, comment on appelle ça, de l'Arewa. Donc son cousin, à partir, n'est-ce pas, du mariage, parce que les Maoris sont considérés comme étant les petits-fils et les Kanouris comme étant les grands-parents. Et vous savez que déjà au niveau familial, il y a ce cousinage-là entre, n'est-ce pas, les enfants et leurs grands-parents. Bien, donc au-delà de cet aspect, il y a aussi l'aspect lié à des conflits, n'est-ce pas, inter-ethnique qui a eu lieu dans le temps, sur l'espace nigérien. Et nos ancêtres, étant imaginatifs, ont pensé qu'il fallait trouver un mécanisme qui va permettre définitivement de mettre fin au conflit entre les différentes communautés. Et donc c'est pour cela, n'est-ce pas, ils ont fondé, n'est-ce pas, cette parenté à plaisanterie entre les différentes communautés, que j'allais appeler peut-être une parenté un peu artificielle, mais c'est toujours sur la base de ce que représente cette parenté à plaisanterie là qu'ils ont fondé, et une plaisanterie entre des communautés différentes pour mettre fin aux différents conflits, ou bien pour créer les conditions d'un bon voisinage, d'une cohabitation sur un même espace. Et pour rappeler, toujours insister sur cet aspect lié aux guerres, vous vous rappelez par exemple au Mali, qui est un des pays de la sous-région où cette parenté est en œuvre, au temps de Soundiata Keita. Donc il a fait signer à toutes les communautés, parce qu'entre temps, toutes les communautés étaient en train de se faire la guerre entre elles. Donc comment résoudre ce problème? Ils se sont eux aussi inspirés, n'est-ce pas, de cette parenté au niveau familial pour, n'est-ce pas, l'amener au niveau intercommunautaire afin de faire taire les armes, afin également d'asseoir une paix entre les différentes communautés. Et c'est ce que cela a été traduit dans ce que les Maliens ont appelé la charte de Dourukan. Donc, qui est une charte à l'intérieur de laquelle un certain nombre d'articles ont été définis et qui mettent non seulement fin au conflit, mais qui fait en sorte que les différentes communautés deviennent cousines les unes, n'est-ce pas, avec les autres.
D'accord. Monsieur Mazou, quel complément peut-on apporter sur l'origine de la parenté à plaisanterie?
Merci beaucoup, Monsieur Momansani. Je voudrais d'abord renouveler mes remerciements pour l'invitation autour d'un thème éminemment important. Je voudrais aussi m'en réjouir qu'une institution des Nations Unies ait classé ce concept comme patrimoine culturel immatériel. Ceci dénote son importance, à n'en point douter. Donc maintenant, pour revenir à votre question, M. Mamassani, éloquemment, Dr Madougou a dégagé les contours même de l'origine de la parenté à plaisanterie et qui laisse transparaître alors les objectifs visés à travers cette parenté à plaisanterie, notamment la résolution des conflits sociaux. Et comme l'origine, elle est sociale, certainement, la fonction aussi qui est liée à cette dénomination est sociale aussi. Et donc, moi, je pense que les avantages de la parenté à plaisanterie, essentiellement, c'est de résoudre les conflits sociaux, de rapprocher les communautés, les groupes communautaires. Donc, c'est d'œuvrer à la cohésion sociale, d'une manière générale.
Docteur, nous avons deux dénominations. Tantôt, on dit parenté à plaisanterie, tantôt, on dit cousinage à plaisanterie. Y a-t-il une différence?
Bien, merci. Cette question, nous avons, dans le cadre de nos recherches, tenté de lui trouver une réponse définitive. Parce que nous sommes partis du principe de base, définitionnel. Et comme je l'avais dit tout à l'heure dans ma première intervention, la parenté à plaisanterie trouve son ancrage dans les relations d'abord au niveau familial. Donc, nous, dans notre communauté, on dit cousin à plaisanterie, donc lorsqu'il s'agit des enfants, des frères et sœurs, etc., etc. D'accord? Donc ce terme cousinage-là, en réalité, vous avez vu que nous avons parlé tout à l'heure d'une extrapolation qui a permis maintenant de l'instituer entre les communautés, n'est-ce pas, entre elles. Donc nous, déjà dans nos recherches, parce que comme vous le savez, moi je fais des recherches sur cette question, donc on est arrivé à un stade où on se dit que la question de la terminologie ne doit pas être un handicap, ne doit pas poser un problème. Et donc lorsqu'on fait cette extrapolation, donc on peut parler de cousinage comme, n'est-ce pas, on peut indifféremment également parler de parenté. Vous allez voir également, excusez-moi, que nous, par exemple, au niveau du groupe de recherche, nous, on dit cousinage parce qu'on sait que c'est le point de départ. Donc, ne change rien. Mais par exemple, au ministère de la Culture, ils parlent de la parenté. Mais nous, ça ne nous dérange pas parce que c'est la même chose. Parce que présentement, dans mes écrits, puisque j'ai fait beaucoup de publications sur la question, donc moi, j'utilise les deux mots indifféremment. Vous allez voir que, par exemple, quand vous partez de la sous-région, d'autres parlent, n'est-ce pas, de parenté, d'autres parlent d'alliance. L'aspect alliance, n'est-ce pas, rappelle cette fonction sociale-là que j'avais évoquée tout à l'heure, où il s'agissait, n'est-ce pas, de créer un lien entre les communautés afin d'asseoir une fait, n'est-ce pas, effective entre les communautés.
Monsieur Mazou, un accent particulier est toujours mis sur la question de l'humour quand on traite de ce cousinage à plaisanterie. Oui. Selon vous, pourquoi l'humour intervient dans ce cas?
Alors, Maman Sani, permettez-moi de revenir un peu sur le dernier point développé par le docteur. Moi, je pense que lorsqu'on voit parenté, on voit plaisanterie, peut-être c'est une répétition, mais qui a un sens.
C'est ça.
C'est une forme d'insistance parce que le cordon ombilical, d'abord pour plaisanter, il faut avoir un lien de parenté. Qu'on soit de même groupe ethnique, de la même communauté, il faut qu'il y ait un lien. Donc, moi, je pense que c'est pourquoi, en embarquant les deux expressions ou les deux mots dans la même expression, c'est une répétition qui valorise tout le concept. Si vous n'avez pas de lien, il n'y a pas de raison de plaisanter. Donc, pour revenir maintenant à la question de l'humour, l'humour, par définition, on dit que c'est une ironie plaisante qui s'appuie essentiellement sur des aspects qui peuvent être vestimentaires ou même comportementaux. L'humour, c'est ça même, le contenu de la parenté à plaisanterie. On provoque, on ironise par rapport à votre comportement, par rapport à votre façon de vous habiller, n'est-ce pas? Et sera l'évérateur de quelque chose, de la vie sociale que nous menons dans un groupe, à l'intérieur d'un groupe. Donc l'humour est là pour mettre en valeur la parenté à plaisanterie. C'est son expression en réalité.
Ouais. Je reviens à vous, docteur Madougou. Est-ce qu'il y a un lien entre la parenté à plaisanterie et les blagues du mois d'avril là, qu'on fait?
Bien,
les poissons d'avril.
Merci. Donc, les blagues du mois d'avril, vous savez, les poissons d'avril, c'est une invention occidentale. Donc, qui n'a rien à voir avec nos réalités. Donc, nous, c'est notre parenté à plaisanterie ou cousinage à plaisanterie et trouve son ancrage, n'est-ce pas, dans et essentiellement de notre culture. Et donc, fondamentalement, il n'y a aucun lien, n'est-ce pas, c'est aussi eux, à leur manière, n'est-ce pas, peut-être de plaisanter entre eux, et puisque toutes les études montrent qu'il y a presque beaucoup de communautés à travers le monde, n'est-ce pas, plaisantes entre elles et qu'il y a cette espèce de plaisanterie entre les gens. Et notez qu'il n'y a aucun lien entre la parenté à plaisanterie telle que nous l'exprimons, n'est-ce pas, et le poisson d'avril, n'est-ce pas, qui est un truc, n'est-ce pas, occidental. Or, cette question-là, nous, on la traite comme une valeur de nos ancêtres africains. C'est une invention, on raconte un mensonge, voilà, qui peut attirer l'attention de quelqu'un.
Justement.
Et après, toujours, il y a l'humour qui revient et on dit, ah, on blaguait, c'est pas, en fait,
on vient, on rectifie.
Voilà, on rectifie.
C'est ça. Monsieur Mazou, partant des ethnies qui sont au Niger, est-ce que vous pouvez nous dire à titre d'exemple qui est cousin de qui et pourquoi?
Sur l'espace nigérien, pratiquement toutes les communautés ont des cousins. Pratiquement toutes les communautés. Et c'est ce qui fait la richesse du Niger. Hein. Et j'allais dire même, c'est ce qui démontre un peu la cohésion sociale au Niger. Hormis les quelques années parsemées à des conflits sociaux, le Niger n'a jamais connu ça, voyez-vous. Nous pouvons citer comme exemple, je commencerai par moi je suis Badar et lui-même Madougou Barahou. Donc vous voyez, cousin de Maori, des Kourfayawa, n'est-ce pas, et aussi des Tamashek. Quand on prend le peuple qui est au centre, lui c'est le cousin des Maori, des Adrawa, des Kanuri. Quand vous prenez les Gobirawa, cousins des Jarma, et ils sont aussi les cousins des Daurawa, voyez-vous. Donc souvent même on fait épanchement cousins de Yoruba, vous voyez. Et quand vous prenez aussi les Gourmanché, ils peuvent être aussi cousins des Jarma. Donc il y a beaucoup de liens de cousinage entre les communautés qui vivent sur l'espace nigérien. Et d'ailleurs, même s'il y a des communautés qui sont venues s'installer récemment, et elles sont obligées de marquer le pas. Et quand on prend l'exemple des Yoruba qui viennent au Niger quand même, ils commencent à plaisanter avec des communautés telles que les Gobirawa ou les Daurawa.
Monsieur Madougou, docteur, la même question, partant des ethnies qui sont au Niger, qui sont cousins de qui et pourquoi?
Qui sont cousins de qui? On connaît à peu près un peu les différents liens que tout le monde connaît. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est une question, bon, nous, en tant que chercheurs, par rapport à la question, on cherche trop de détails. Par exemple, quand vous prenez le groupe ethno-linguistique Zarma Sonray, c'est un groupe à l'intérieur duquel on a découvert plus d'une dizaine de combinaisons entre les différents sous-groupes. et il faut chercher à savoir pourquoi, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, dans les sous-groupes de Zerma Sonray, il y a cette parenté appelée Zenteri. Quel est le point de départ? Et nous sommes sur une piste qui nous montre clairement que c'est le lien de parenté lié au mariage, donc le cousinage consanguin, comme d'habitude. Donc, Mazou a déjà indiqué quelques pistes par rapport au lien de parenté entre les différentes communautés au Niger. Vous savez très bien que les Kanouri sont cousins des Peuls, sont cousins des Maori. Et tout cela, il faut chercher le pourquoi dans le mariage, dans le lien, n'est-ce pas, consanguin, mais aussi dans, n'est-ce pas, les différents conflits, donc dans la recherche des solutions, n'est-ce pas, aux conflits que les gens et que les différentes communautés ont eu entre elles dans le temps. Mmh. Donc nos ancêtres, comme je l'avais dit dans mon intervention tout à l'heure, ont été très imaginatifs au point où, à travers ce jeu-là, à travers cette pratique-là, donc on décrispe rapidement l'atmosphère et au lieu que ça devienne un conflit, n'est-ce pas, que le conflit continue entre les gens, quelqu'un trouve ce mécanisme-là pour décrisper l'atmosphère et tout le monde se met à rire et on sympathise. Je vous donne un exemple. En 2012-2013, j'étais en mission du ministère de la Culture à Diffa. On m'a donné l'exemple d'un Maori. C'est un cas d'école. Je veux dire ce qui se passe dans sa famille pour voir un peu et toute la force. Je voudrais revenir, on va peut-être revenir sur ces aspects-là. Toute la force de cette parenté à plaisanterie. Le Maori est marié déjà à sa cousine, consanguine, qui est une Maori. Donc ça veut dire qu'entre eux, ça va blaguer. Arrivé à Diffa, donc il s'est installé, il s'est marié, n'est-ce pas, à une Kanouri comme deuxième épouse. Et la troisième, il a pris une troisième, une Peul. Donc vous voyez bien ce cocktail qui devait être explosif, mais il n'est pas en réalité. Ça explose, mais tout de suite, le feu est éteint. Parce que quand c'est lui avec une autre, les autres se mettent, n'est-ce pas, à les taquiner. Quand tout ce que quelqu'un avance, les autres vont dire « Ah, tu as entendu ce qu'elle t'a dit. Ah, là, elle t'a eu. Hein. » Souvent, quand les femmes elles-mêmes sont en conflit entre elles, elles se mettent au centre. Dès que quelqu'un annonce quelque chose, elle dit « Ah, elle t'a eu, hein, tu as entendu ce qu'elle a eu. » Donc, de telle sorte que la bagarre au sein de la famille est vite décrispée, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, l'usage de cette parenté à plaisanter. Et il y a une dimension qui va même un peu à l'extérieur du pays. Quand vous prenez le groupe Zerma Sonray du Niger, elle a une parenté à plaisanterie avec un groupe ethno-linguistique qu'on retrouve au Burkina Faso. Et ce groupe-là, c'est le groupe des Gurunsi. Lors de mes séjours en 1993 au Burkina, il y avait un vieux bûcheron qui passait devant là où on est. Il a su que nous sommes des Nigériens. Chaque fois quand il passe, nous, on le salue. Il répond et dit « Laissez-moi tranquille, espèce de fou ». Avec le temps, on s'est demandé « Mais papa, on l'a interpellé un jour ». Pourquoi nous, on vous salue sagement et vous nous traitez de fous? Il dit, allez-y, vous êtes des Nigériens, non? On a dit, oui, on est des Nigériens. Et pourquoi? Il dit, bon, en plus, vous êtes Zerma. J'ai dit, non, qu'est-ce qui te prouve que nous sommes Zerma? Il dit, non, dans tous les cas, vous êtes Nigériens, c'est la même chose. Et j'étais content de cette expression quand il a dit que nous sommes la même chose. Bon, j'ai dit, pourquoi vous nous plaisantez comme ça? Il dit, ah, voilà, vous savez, les Zerma du Niger, là, ce sont des fous, ce sont des bêtes. J'ai dit, pourquoi? Et il dit, que ah, vous savez, voilà l'histoire, elle nous a raconté l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'au temps des empires, là, vous savez, il y avait les Moussi avaient été un empire et un royaume, je ne sais pas, et qui avait une forte armée qui faisait la guerre, qui traquait pratiquement tout le monde dans la sous-région. Et donc, les Gurunsi étaient menacés par les Moussi pendant ces guerres de conquête de l'espace, bien entendu, qui a eu lieu un peu partout en Afrique. Voilà. Bien, maintenant, entre-temps, dans la même période, le groupe Zerma Sonray avait l'une des plus puissantes armées de la sous-région. Donc, les Gurunsi ont fait appel aux Zerma pour qu'ils viennent les aider pour faire face à la menace Moussi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi ils traitent les gens de fous? Quand l'armée des Zerma Sonray, n'est-ce pas, est venue sur le territoire de la guerre, elle a cassé la gueule à tout le monde, aux Moussi, comme à ceux qui les ont invités. Donc, on voit bien un peu le sens quand il plaisante avec les gens. Il dit qu'ils sont de fous. Donc, on voit bien, je vous invite pour m'aider et pour m'aider à faire face à un adversaire. Vous me cassez la gueule en même temps que mon adversaire. Donc, voilà un peu, on voit bien des choses. Pourquoi je vous dis que les explications liées à la recherche des solutions pour de paix pour contre pour arrêter certaines guerres ou bien certains conflits. Donc à expliquer permet d'expliquer aujourd'hui cette parenté appelée.
Docteur, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Je voudrais dire, ce serait une aberration même de parler de parenté à plaisanterie sans accompagner ces échanges de rire. Et nous, moi, j'ai été quand même témoin d'une histoire. Nous avons vécu cela à côté de Douti, dans un village de l'Arewa. Alors, c'est un ami, un colonel de douane. Nous sommes allés donc saluer sa famille. Et parmi nous, il y a un ancien qui est Kanuri. Et le village s'appelle Chakhoshi. Et dès que nous étions arrivés au village, il a dit, nous sommes venus Mosham Hoshi. Et je vous assure, les vieux, ils n'ont rien dit. Ils sont allés chez eux préparer de la boule. Chacun avec une calebasse remplie. Ils ont dit, wallah, vous allez tout boire. Je vous assure, le jour-là, j'étais là, on était obligés de tout boire. Ils ont appris qu'il y avait des peuls parmi nous, des Adrawa, il y a des Kanuri. Et vraiment, ça a été une véritable mésaventure parce qu'il a fallu quand même boire tout le contenu des calebasses qu'ils nous ont présentés. Donc ça, c'est la richesse culturelle. Je crois. C'est une valeur ajoutée pour la culture nigérienne. La parenté à plaisanterie.
Justement, c'est la fonction que j'allais vous demander, la fonction de la parenté à la plaisanterie. Vous avez commencé tout à l'heure à évoquer un tout petit peu quelques avantages. Y a-t-il d'autres
Le rapprochement des communautés, désamorcer les tensions sociales, tisser les liens de parenté. Vous voyez, la cohésion sociale, comme nous l'avons rappelé, elle est importante pour la vie d'un peuple. Et je crois bien, et à chaque fois que nous avons l'occasion de désamorcer des tensions sociales, les juguler, ça participe à la cohésion sociale et ça permet aussi de développer le pays. Le Burkinabé qui a dit que vous êtes tous seulement les mêmes, il était très content.
Il nous gâtait, hein.
Voilà. Et moi, je suis sûr que le Burkinabé, là, serait incapable de citer les ethnies du Niger. Il a dit, mais allez-y, vous êtes tous les mêmes.
C'est la même chose.
Oui, c'est la même chose.
Tout à fait. Docteur, dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, on parle d'alliance à plaisanterie. Est-ce qu'il y a un lien avec la parenté à plaisanterie du Niger?
Avant de revenir sur cette question, je voudrais faire un ajout sur ce qu'on venait de dire relativement, n'est-ce pas, à qui est cousin de qui au Niger et pourquoi. Bien, vous savez, quand on regarde l'architecture actuelle, la structure plutôt actuelle de la société nigérienne, n'est-ce pas, il y a, je crois, on a autour de 10 communautés ethno-linguistiques. Et donc, vous allez vous rendre compte que toutes ces communautés-là ont au moins un parent à plaisanterie parmi les autres communautés. Il y a des difficultés aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier et pour avoir avec précision un parent à plaisanterie au tout bout. Voilà bien. Et pour les Arabes, on a trouvé une piste, c'est un sous-groupe Touareg qui est parent à plaisanterie aux Arabes. Mais pour les Toubou, les pistes de recherche nous renvoient un peu sur le territoire tchadien. Mais le problème, c'est que c'est une communauté peut-être un peu ésotérique, n'est-ce pas, un peu enfermée sur elle-même, de telle sorte qu'on ne sent pas cela d'une certaine manière avec les autres communautés qui sont là. Mais toujours est-il que cette parenté-là, n'est-ce pas, contribue à nous rendre l'accès à ces communautés-là de façon beaucoup plus facile. Et donc, je me rappelle bien au cours d'un séminaire organisé par le ministère de la Culture, il y avait quelqu'un qui a dit que si ces communautés-là eu égard à l'importance, à l'utilité de cette parenté à plaisanterie-là, si de tout bout jusqu'à présent on n'a pas trouvé un parent à plaisanterie, il faut le chercher ou il faut leur en donner. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'en réalité, quand on regarde, c'est un véritable ciment entre nous, cette parenté à plaisanterie. Et donc, il faut faire en sorte que tout le monde blague avec tout le monde. Et là, je pense que nous sommes déjà sur cette voie. Aujourd'hui, les Toubou, nous, on blague avec eux, et, n'est-ce pas, de façon indifférente, comme si on blague avec un Kanuri ou tout autre groupe ethnique. Donc, la question que vous me posez par rapport à l'alliance, donc tout à l'heure dans mon intervention, j'avais parlé des différents termes qu'on utilise pour parler de cousinage, de parenté ou bien d'alliance. On voit bien, donc, c'est un peu l'expression qui diffère d'un endroit à un autre ou d'un pays à un autre. Le terme alliance trouve son sens à travers ces différents pactes que les communautés entre elles ont signé et qu'on contracte, ont contracté entre elles afin de mettre fin à différents conflit. Et je vous ai parlé de la charte de Kourouka au Mali. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut comprendre le sens du mot, n'est-ce pas, alliance.
À l'époque, on n'allait même pas l'appeler Mali parce qu'il n'y avait même pas l'État malien.
Donc voilà. Donc ceux qui sont tout autour, donc les différentes communautés, autant de Sundiata Keta, les a réunis, leurs représentants, il a fait en sorte que tout le monde s'entende sur un certain nombre de principes. Et ce qui fait que pratiquement le Mali est un peu comme chez nous. Tout le monde est cousin de tout le monde. Quand vous regardez en tout cas les liens qui unissent beaucoup de communautés au Niger, quand vous allez fouiller, vous allez trouver que c'est le lien de sang d'abord avant d'arriver à ces liens de comment on appelle ça, intercommunautaires, n'est-ce pas, liés à la guerre et à la recherche de la paix.
Monsieur Mazou, il y avait une grande promotion de la parenté à plaisanterie dans le temps, à travers le théâtre, à travers plusieurs activités culturelles surtout, mais plus assez maintenant. Est-ce un choix politique ou tout simplement une question de progrès économique?
Alors, c'est difficile à répondre, mais il y a quand même ce qui est réel, ce qui est tangible, ce qu'on sent. On sent qu'effectivement, cette valeur est en train de prendre du recul de nos jours, notamment avec la jeunesse. Maintenant, pour parler en termes de promotion, moi j'ai eu un bref séjour au niveau du ministère de la Culture. J'ai fait au moins 3 ans au niveau de la direction de la culture. Je sais que cette direction nationale de la culture prend en charge ce genre de concept. Je m'avais cité comme exemple le festival Le Conte de Dogondouti. Alors si le politique décidait de revigorer, de donner une autre valeur à ces contenus à travers l'organisation, par exemple, d'un festival de parenté à plaisanterie, qui ne se retrouve pas uniquement dans une pièce de théâtre, alors la jeunesse pouvait facilement s'en accaparer, comprendre l'importance, puisque nous avons vu que c'est une fonction extrêmement importante. L'organisation d'un festival, pas seulement au cours de la lutte traditionnelle, on a vu à la cours de la lutte traditionnelle, on fait le concours de Taki. Mais pourquoi ne pas organiser un festival de parenté à plaisanterie? Étant donné que toutes les communautés nigériennes sont impliquées, je voudrais, avec votre permission, revenir sur un aspect évoqué par le docteur. Il a dit, nous sommes sur des pistes pour trouver des cousins au Toubou. Mais tout le monde est cousin au Toubou. Mais l'origine que vous avez évoquée tout à l'heure, vous avez parlé de contact géographique. Il y a lien de mariage quand il y a contact géographique. Des communautés qui s'établissent sur un même espace. Il y a des Toubous à Difa, il y a des Toubous à Garez, il y a des Toubous partout à Zender. Donc, ils sont cousins à tout le monde. Il n'y a pas de différence. Donc, il faut mettre en valeur ce contenu à travers l'organisation d'un
surtout
festival.
Surtout qu'aujourd'hui, on le sent de moins en milieu urbain. En milieu rural que c'est. Et puis, c'est surtout aussi la population jeune, comme vous le
tout
dites
à fait.
Là. Donc...
Il y a tout de même une forme de récupération de la jeunesse. Dans le cadre de l'organisation de mariage, on voit les jeunes filles. Les filles d'honneur organisées, c'est ce qu'on appelle Patinkaoui. Mais lorsque vous regardez de près comment Patinkaoui est organisé, vous vous rendez compte que les jeunes filles se maquillent en référence au comportement des groupes ethniques du Niger. Les Peuls, hein, les Kanouri, etc., etc. Et ils sortent dans la rue pour que tout le monde les voit. Voilà comment sont nos parents qui sont au village. Et c'est la plaisanterie comme
c'est
ça. Plaisanterie, c'est une forme de récupération.
Cimentaire, oui.
Voilà.
Tout à fait. Question du progrès économique. Nous sommes dans une mondialisation. Les gens sont tentés plus à des valeurs occidentales que de préserver nos propres valeurs.
Ce qui ramène toujours la question de l'organisation du festival.
Oui.
Si on veut réellement sentir le progrès économique, il faut qu'on donne la valeur à cette chose-là, à travers l'organisation notamment du festival, ou trouver un autre contenu en tout cas, mais que ça soit une manifestation nationale.
Une autre question, pourquoi est-ce que les Peuls aujourd'hui plaisantent avec presque toutes les ethnies du Niger?
Ça c'est une très bonne question. Parmi les groupes nomades qui sont dans l'espace nigérien, les Peuls sont les plus ambulants, qui se déplacent. Comme c'est une question de contact géographique, en s'établissant sur un espace géographique et en contractant le lien de mariage, c'est ce qui fait que le plus souvent, ils plaisantent avec tout le monde. Hormis l'aspect vestimentaire qui est physique. Voilà pourquoi les Peuls sont la risée de tout le monde. Le caractère insolite de leur comportement, n'est-ce pas? Le caractère drôle de leurs vêtements, etc., etc. Et le fait de circuler partout, hein, ils sont partout, les Peuls, sur l'espace nigérien, c'est et ça. En s'établissant, moi je pense que, docteur peut-être va le confirmer, ils font des recherches partout, moi je pense que c'est le fait de s'établir dans des aires géographiques qui leur permettent de contracter des liens de mariage. Aujourd'hui, vous ne vous demandez pas quelle femme vous épousez, est-elle Hausa ou Germa, ou Peul, il y a un métissage total au Niger. C'est un conglomérat. Donc, voyez-vous, moi, je pense que c'est parce que c'est le groupe nomade qui circule le plus dans l'espace nigérien.
Qui est le plus ambulant.
Voilà, qui est le plus ambulant. Merci.
C'est ça. Docteur, aujourd'hui, est-ce que la question du progrès économique et de la mondialisation constitue un handicap à la parenté à plaisanterie?
Donc, c'est vrai, tout ce qu'elle a dit, vraiment, sont des aspects qui expliquent clairement pourquoi les Peuls sont aujourd'hui, et, n'est-ce pas, les cousins de presque toutes les communautés nigériennes. Leur comportement, leur manière de s'habiller, leur discours aussi attire l'attention et ça crée un peu, comment on appelle ça, une situation ambiante où les gens ont tendance à vouloir les écouter. Pour rire par rapport à ça, surtout quand ils viennent en ville, ils voient bien, ils ont tendance à faire le con, mais ils le font exprès. Donc, nos parents, en réalité, ont créé les conditions permettant.
Vous êtes en train de les défendre, voilà. Est-ce qu'ils le font exprès?
Non, ils le font exprès parce que j'ai compris qu'en réalité, ils ont compris qu'on les prend comme des. Quand ils viennent en ville, on les prend comme des sauvages. Et ils se comportent comme tels.
Voilà,
pour s'affirmer.
Voilà.
Et donc, tous ceux qu'ils feront, donc on va dire, ah, laissez-le, il est venu. Donc, vous voyez bien, ça toujours rentre dans le cadre de cette parenté. Et donc, naturellement, vous voyez bien, ces peuples-là, ils sont établis presque partout. C'est un groupe ethnique que vous allez trouver pratiquement dans presque tous les villages du Niger.
C'est ça.
Et donc, ce contact territorial, là, géographique, comme l'a dit Mazou, donc, a contribué à faire en sorte que, qu'il y ait un véritable brassage entre les peuples et les différentes communautés avec les liens de mariage et autres. Parce que le simple fait même d'être tout le temps ensemble crée une sorte de plaisanterie entre les gens. Par rapport à la question de la mondialisation, je reviens d'abord aussi sur l'aspect politique. Voyez bien, au Niger, à un moment, il y a eu un regain d'intérêt sur la parenté à plaisanterie et sur de bonnes guerres. Le politique a besoin d'une stabilité, a besoin d'une cohésion sociale digne de ce nom, a besoin d'une paix entre les différentes communautés sur le territoire. Et donc, naturellement, d'un point de vue politique, on ne peut qu'encourager, n'est-ce pas, cette pratique-là. Vous voyez bien, vous avez fait le lien, vous avez posé un problème d'ordre économique, mais comme on le dit souvent, sans paix, pas de développement. Et donc, naturellement, on ne peut entreprendre aucune activité économique lorsque nous vivons dans une situation d'insécurité ou une situation d'absence de paix. Donc, le lien est clair. La paix et le développement, et donc économique, social et tout ce qu'on veut. Donc, c'est parce que cette valeur participe, n'est-ce pas, de la consolidation des liens et donc elle participe également de la consolidation de la paix entre les différentes communautés. Par voie de conséquence, nous pouvons dire que aussi elle participe du développement économique, n'est-ce pas, et social de notre société. Eh bien, donc par rapport à la question de la mondialisation, là c'est un défi que nous avons à relever. Tout à l'heure, j'avais conclu un article scientifique sur la communication interculturelle en me posant le problème selon lequel il faudrait que, dans cette marche vers la mondialisation, que nous évitions d'aller vers une uniformisation, c'est-à-dire surtout d'un point de vue culturel où il s'agit pour nous tous, n'est-ce pas, d'être comme des Occidentaux, des Américains, etc. Mais que chacun, dans cette mondialisation, que la diversité culturelle soit de mise. Mais pour que cela, cette diversité culturelle qui est reconnue depuis octobre 2005 par la charte de l'UNESCO, il faut que chacun fasse un pas en avant pour reconnaître ce que cela représente et pour reconnaître l'effectivité de cette diversité culturelle, parce que nous sommes différents culturellement parlant et que c'est dans cette différence-là que nous pouvons aller ensemble. Mais il y a un défi pour nos communautés, surtout qui sont des communautés un peu fragiles, d'un point de vue économique, social, etc. Parce qu'on a tendance à vouloir copier les Occidentaux tout en remettant en cause nos valeurs culturelles. Donc, lorsque vous voulez vous engager dans un mouvement d'ensemble où ce sont les identités qui vont s'exprimer, si vous n'avez pas une identité digne de ce nom, si vous perdez vos valeurs culturelles, il est clair que vous allez être confondu et vos valeurs vont disparaître. Et vous-même, vous allez disparaître avec.
C'est ça.
Vous voyez bien. Et donc, naturellement, n'est-ce pas, nous sommes tenus dans cette mondialisation de travailler dur pour préserver nos valeurs sociales parce qu'elles ne nous empêchent pas d'être en contact avec les autres communautés. Elle ne nous empêche pas d'aller, d'échanger correctement avec les autres communautés à travers le monde. Et donc, lorsqu'on parle de mondialisation culturelle, il faudrait tout faire pour éviter à ce que ça soit une uniformisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut faire en sorte que les diversités s'expriment véritablement. Mais pour que les diversités puissent s'exprimer, il faut que chaque groupe ethno-linguistique ou bien chaque culture puissent vraiment préserver ces valeurs et les exprimer à la face du monde.
Monsieur Mazou, comment mieux valoriser cette question, surtout dans les centres urbains? Vous avez tout à l'heure parlé de la promotion de cette parenté à plaisanterie par les ministères. Est-ce que, selon vous, vous êtes aussi un cadre de l'éducation, est-ce que, selon vous, l'État peut l'intégrer dans le curricula de l'éducation?
Probablement. Mais je préférerais alors que cela soit institué au niveau, par exemple, des centres culturels, comme on a l'espace conte, comme espace théâtre, comme on fait dans les centres urbains les tréteaux, les spectacles de rue, qu'on arrive à organiser quand même des rencontres culturelles uniquement sur la base de ce contenu parenté à plaisanterie. À l'école, c'est un peu difficile d'instituer ça. Il faut des études pour voir la faisabilité. Parce que c'est quand même des valeurs à transmettre. Hein? Il faut mieux réfléchir, mais je pense qu'à travers des spectacles de rue, dans les centres culturels, dans les maisons de la culture, on peut trouver tout des espaces où on va se rassembler pour écouter ces bonnes blagues, oui, quand même, qui est positif un peu
nos relations
sociales. Absolument, nos c'est relations
ça.
Sociales.
C'est ça. Docteur Madougou, vous êtes philosophe, s'insulter pour rire. Comment comprendre ce phénomène-là?
Au fond, bon, parce que nous, comme je vous l'ai dit, moi, j'analyse la question d'un point de vue scientifique. Mais toutes nos recherches nous ont permis de comprendre qu'en réalité, dans cette pratique-là, en réalité, il y a un certain nombre de règles. Il y a du permis et il y a de l'interdit. Et les insultes sont strictement interdites. Tout ce qui peut porter atteinte à la moralité et au physique de l'adversaire ou bien du parent à plaisanterie est strictement interdit.
Mais dans les faits, ce n'est pas ça.
Bon, dans les faits, les gens, exagèrent. Or, en réalité, l'insulte ne fait pas partie, n'est-ce pas, du jeu. Le jeu se pratique dans une ambiance parfaite, bon enfant, pour que tout le monde... Parce que c'est une sorte de compétition. C'est pourquoi, par exemple, avec le défunt Barquet, nous envisageons la parenté à plaisanterie comme une espèce de jeu. Et c'est ça qui permet de comprendre comment ça se pratique. Parce que nous le définissons comme un jeu à somme nulle. Parce qu'à la fin, il n'y a ni vainqueur, ni perdant. Par exemple, quand vous insultez un Bahadré, ça risque de tourner mal. Parce que c'est une zone, en tout cas, c'est un groupe. C'est un groupe, en tout cas, où l'insulte, dans la culture de l'Adère, en tout cas, les insultes, n'est-ce pas, sont bannies. Ouais bien. Et donc, naturellement, ça fait mal. Or, nous, on veut que cette pratique-là puisse asseoir et consolider nos liens. Au lieu de les détruire. Or, en insultant quelqu'un, il est clair que vous allez le toucher moralement. Et là, ça peut conduire non pas à asseoir la paix entre vous, mais à créer les conditions d'un conflit peut-être qui peut s'éterniser entre vous.
Dernière question pour vous, Monsieur Mazou. Quelles sont les perspectives, notamment en cette ère de mondialisation?
Moi, je comprends votre question dans le sens de la survie même, de la parenté à plaisanterie en cette ère. Donc là, il faudra réfléchir, voyez-vous. Quand on parle de mondialisation... Les gens se retournent le plus souvent vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais s'il y a des blogs, il y a des plateformes là où effectivement on peut se retrouver pour échanger ces joutes-là, ça serait toujours intéressant et ça permettra aussi au monde entier de savoir qu'au Niger, voici les raisons pour lesquelles l'UNESCO a décidé de classer la parenté à plaisanterie comme étant un patrimoine immatériel. Je n'oublie pas la télévision aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a téléphone portable, internet, mais la télévision, il est possible qu'elle soit présente pratiquement dans, et la radio dans tous les foyers. C'est à travers les masses médias, effectivement, qu'on peut vulgariser, qu'on peut permettre à ce contenu de survivre encore dans l'esprit de la jeunesse, qui est traqué par les nouvelles technologies. L'audiovisuel est en train d'assaillir, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est du progrès tout court ou bien si c'est du progrès en reculant. Quand vous prenez l'exemple du Nigeria, docteur, dans une ville comme Kano, les étudiants, les chercheurs, les masterants, les doctorants, etc., tout le monde trouve à écrire, même par rapport au quartier, l'origine du quartier. Mais pas chez nous. Moi, c'est ça qui me surprend. Je ne suis pas certain d'avoir l'histoire de tous les quartiers de Zender, à Merada, au Sultanat, écrit par des jeunes étudiants, des chercheurs, etc., etc. Mais vous allez aujourd'hui à Kanola, vous allez trouver l'histoire de tous les quartiers archivés qui sont renouvelés sans cesse. Et je voudrais que l'université se penche sérieusement là-dessus. Et c'est un motif de satisfaction en découvrant qu'effectivement, il y a quand même des chercheurs qui s'activent là-dessus sérieusement.
Docteur Madougou, même question pour vous. Quelle perspective pour surtout une meilleure gouvernance, surtout dans ce phénomène également de mondialisation?
La perspective, elle est simple. Elle passe par l'éducation. Tu vois bien. Mais il y a beaucoup de mais. Donc la question de la parenté à plaisanterie, c'est clair, c'est une question que nous devons faire tout pour l'entretenir et pour la pérenniser. Comment faire? Et comme je l'ai dit, il n'y a pas d'autre voie que celle de l'éducation. Maintenant, et nous, comme je vous l'avais dit, depuis 2009, en réalité, nous on réfléchit sur la question, mais un moment, des problèmes de moyens ont fait qu'on n'a pas pu encore avancer, mais toujours est-il que le projet est toujours là en veilleuse, mais Inch'Allah, très tôt, j'envisage en tout cas le sortir des tiroirs et remonter, puisqu'on avait une équipe qu'on avait mise en place à Niamey, et cette équipe-là est pratiquement disloquée. Nous sommes conscients qu'il faut la pérenniser. Et la pérenniser, il faut passer par l'école, du CI jusqu'à l'université. C'est vrai, peut-être au niveau supérieur, il y a un pas qui est déjà franchi. Mm-hmm. On fait soutenir aujourd'hui des mémoires en master de sociologie et même en philosophie. Il y a eu tout récemment même une thèse de philosophie qui a été soutenue sur la question de la parenté à plaisanterie par un Nigérien. Et donc, au niveau supérieur, vous savez, c'est plus facile. Mais aux autres niveaux, il fallait créer les conditions optimales permettant de l'intégrer dans le programme. C'est une carte que nous voulons d'abord établir, qui consiste à répondre à la question de savoir qui est cousin de qui et pourquoi sur le territoire du Niger. Mais le problème se trouve où? Ce n'est pas dans le qui, mais c'est dans le pourquoi. Parce que nos enquêtes nous ont révélé qu'il y a des raisons qui peuvent être mal exploitées. Or, aujourd'hui, vous allez dans une école primaire, par exemple, dire à deux enfants de deux communautés différentes que voilà, vous êtes cousins et entre vous, voilà la raison, votre grand-père a été ceci, cela et des choses, en fait, qui peuvent poser problème, que les enfants ne peuvent pas maîtriser. Et c'est pour cela, nous avons dit, le ministère de la Culture a voulu prendre le devant. Moi, je m'étais opposé, j'étais l'un de ceux qui s'étaient opposés par rapport à cela. J'ai dit, il faut attendre, travailler dur, parce qu'il y a des aspects historiques qui posent problème. Vous comprenez? Il y a des réalités aujourd'hui et qui sont là, au niveau de nos chefferies, qu'il faut comprendre pour éviter à ce que ça pose de problème. Parce que nous, notre souci, c'est que ça règle nos problèmes. Mais il ne faut pas que par ce canal-là, qu'on crée d'autres problèmes. Donc, il faut travailler cela scientifiquement pour faire sortir des choses qu'on peut transmettre aux enfants depuis le CI, n'est-ce pas? On peut inclure ça dans le programme, n'est-ce pas? Depuis le primaire, au secondaire, et maintenant au supérieur, pour que les enfants puissent la sauvegarder. Mais nous devons travailler à faire en sorte que ce qui pose problème là, qu'on l'élimine et qu'on mette en avant uniquement ce qui renferme ou bien qui peut raffermir nos liens de parenté entre nous.
Là, ce que vous envisagez, c'est un travail à long et moyen terme.
C'est ça.
Oui, il faut qu'elle survive. Et c'est là où je vois les masses médias jouer pleinement leur rôle pour assurer la survie de cette parenté à plaisanterie. En fait, je voulais avoir une pensée pour un géant de la musique qui disait que le zouk, c'est leur médicament. Mais nous, au Niger, on va dire que la parenté à plaisanterie et notre médicament, c'est Jacob Duvalier, qui s'est éteint hier ou avant-hier.
C'est ça. Oui. Merci, Monsieur Mazou. Nous sommes à la fin de ce forum. Nous avons parlé du rôle du cousinage à plaisanterie dans la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Niger. Donc, on retient que le cousinage à plaisanterie a plusieurs origines, dont une origine familiale, intercommunautaire, interprofessionnelle, interconfessionnelle, etc. Le cousinage à plaisanterie a un rôle social important en ce sens qu'il instaure une décrispation permanente, une cohésion sociale, etc. Les autorités doivent prendre en charge sa promotion, donc vu qu'il régresse de plus en plus, surtout chez les jeunes, qui doivent s'en inspirer afin de le perpétuer. La parenté à plaisanterie contribue au développement, même si la mondialisation est un défi important. Les médias aussi doivent avoir un rôle à jouer pour sa promotion. Son intégration dans le curriculum de l'éducation serait en tout cas d'une importance capitale. Nous étions avec Dr Madougou Barraou, le philosophe, enseignant chercheur à l'Université des Indes, également doyen de la Faculté des sciences de l'éducation. Nous étions également avec M. Abdou Doki Mazou. C'est un homme de culture, administrateur et puis proviseur du lycée municipal de Zender. On avait également invité Dr Malem Issa Mahaman. Il est historien, mais au dernier moment, il a eu un petit empêchement, ce qui ne nous a pas permis de l'écouter. Il aurait dû également nous en inspirer. Merci et au revoir.